du temps d'Abraham et d'Anne, de la grande Babylone. Bonjour à tous. Nous avons pris la route, nous avons expatrié l'émission. Parti par le Paris-Valence de 22h34, le Paris-Avignon TGV de 19h16, les équipes de plus près de toi ont convergé vers la joyeuse cité de Nyons. Dans cette région de France qui n'est plus Rhône-Alpes et pas tout à fait la Provence, qu'on appelle la Drôme provençale. Là, des milliers de kilomètres de fil ont été installés. Armel M et toute son équipe, les Armel Emmett, sont arrivés, ont installé des baffles, des micros, en veux-tu, en voilà. Les populations locales, déjà aguerries par notre présence la semaine dernière, sont sur le pied, prêts à partir, prêts à intervenir, prêts à parler dans ce pays de l'olive noire, de la lavande bleue, du cycliste hollandais, dans ce pays proche des maquis du Vercors, où la parole est d'or. Ici, nous sommes prêts à faire entendre un autre son de voix, un autre son de cloche. C'est aussi parce que je tourne un film ici que les équipes m'ont rejoint. Je vous l'avoue, Eugénie Poumaillou à l'organisation est en train de sélectionner le meilleur des enfants de la Drôme qui attendent de la maison pour dire leur poème. Et la vie elle-même n'est-elle pas un poème? A tout de suite, Paris, Nyons, des équipes partout. C'est une insolence de moyens ce matin pour vous rendre la matinée plus belle. La vie en beau, la vie en beau.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Près, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Édouard Baird.
J'en mangerai. Je vous jure, ça vaut le coup.
Il est de tradition de commencer l'émission par le journal de notre cher camarade Thierry Paré.
Radio Nova.
Produits chimiques, manipulation de médicaments anticancéreux, poussière de bois, mais aussi émissions de moteurs diesel ou encore travail de nuit. Une étude publiée dans le bulletin épidémiologique rapporte que près de 2,6 millions de salariés ont été exposés à leur poste de travail à au moins une nuisance cancérogène. Les législatives, La République En Marche est donc en route vers une majorité absolue, une Assemblée nationale de novices, Assemblée nationale surtout monochrome. Hein. Voilà donc pour le scénario annoncé du deuxième tour de ces législatives, après ce premier dimanche électoral où seule une dizaine de candidats de La République En Marche, une dizaine seulement en métropole, ont été éliminés, principalement dans le nord et dans le nord-est du pays. La mémoire joue des vilains tours au professeur Michel Aubier, auditionné le 16 avril 2015 devant la commission d'enquête sénatoriale sur le coût économique et financier de la pollution de l'air. En sa qualité de chef du service pneumologie de l'hôpital Bichat à Paris, il avait déclaré qu'il n'avait aucun lien avec les acteurs économiques du secteur. Il avait juste oublié de préciser qu'il était salarié depuis 1997 par le groupe Total, rémunéré près de 150 000 euros par an par Total entre 2013 et 2014 par exemple. L'opposant Alexei Navalny et plus d'un millier de ses partisans ont été interpellés hier alors qu'ils défiaient les autorités dans toute la Russie lors d'une nouvelle journée de mobilisation contre la corruption des élites. Après des manifestations d'une ampleur inattendue, c'était le 26 mars, des milliers de personnes, souvent très jeunes, sont descendues dans les rues, dans une dizaine de villes, y compris près du Kremlin, à Moscou, où les forces anti-émeutes ont repoussé la foule à coups de matraque. L'Union européenne a dénoncé des arrestations, puisqu'il y a eu plusieurs dizaines d'arrestations, dont celle de l'opposant Alexei Navalny, si on y arrive. L'horizon judiciaire de Donald Trump, qui s'assombrit encore un peu, l'État du Maryland et la capitale fédérale de Washington ont assigné en justice le président américain, lui reprochant d'accepter des paiements de gouvernements étrangers par l'intermédiaire de son empire immobilier. Le gouvernement israélien a décidé de réduire de trois quarts d'heure la provisionnement quotidien en courant de la bande de Gaza, faisant craindre de nouvelles tensions dans l'enclave, déjà en proie à une sévère pénurie d'électricité. Les Gazaouis ne reçoivent au mieux que 3 ou 4 heures d'électricité publique par jour. Dans un contexte de crise humanitaire et de marasme économique permanent, l'alimentation en électricité est bien évidemment une préoccupation primordiale dans le territoire en bordure du désert et a fortiori en plein Ramadan. C'est le projet européen le plus apprécié par les Français et quand on sait le peu de confiance dans les instances européennes, Bruxelles célèbre officiellement cette semaine les 30 d'Erasmus, dispositif qui en France permet chaque année à 60 000 étudiants de partir pour un pays européen. Après la désillusion des Bleus qui se sont inclinés 2-1 en Suède, l'équipe de France de football va tenter de réagir ce soir au Stade de France face à l'Angleterre. C'est un match amical. Et puis la défaite du match 4 à Cleveland n'était qu'un sursis. On parle de basket, de NBA. En s'imposant sur leur parquet hier soir dans le match 5, donc 129 à 120, les Golden State Warriors ont remporté leur quatrième victoire des finales 2017, leur assurant donc un deuxième sacre en 3 ans.
Dis donc Thierry.
Oui, Edouard, salut.
T'es un copain, toi?
Pourquoi tu dis ça?
T'es un bon copain.
Ah oui, je suis un bon pote, ouais, on peut le dire.
C'est bien. Par exemple, tu vas voir les copains, tu dis salut les copains.
Ah ouais, ouais, je dis salut les potes, salut les potos.
T'as les potes plus, c'est plus potes toi.
Ouais, je dis potos, ouais. Je dis, salut ma poule. Mais
vous
en
êtes
fait,
une bande, un poule tu dis.
Ouais, je dis salut ma poule.
Mais c'est une bande de quoi, de gens avec qui tu bosses ou plutôt des copains d'enfance, c'est quoi
Attends, quand on est un bon copain, c'est qu'on a des amis d'enfance.
Voilà, mais alors ils sont mélangés aux amis que tu t'es fait après.
Ouais, moyen.
Ou c'est des bandes différentes.
Il y en a certains, oui, mais c'est des bandes différentes, ouais. On peut le dire.
Mais alors, c'est plus.
Attends, je vais allonger sur le canapé parce que c'est plus.
C'est salut ma poule, quoi.
C'est salut ma poule.
Mais pas salut les copains.
Tiens, on se rappelle ma poule.
Oh bah, on se rappelle ma poule.
Bah, tu sais, je suis à l'ancienne.
À l'ancienne, Thierry Parès. Salut ma poule, salut les potos. Salut les copains, c'est toute l'ambiance bon enfant. On se prépare une bonne tartine de quoi.
Oh, je sais pas, de
une tartine au pain.
Hein, de
voilà, pain. Et puis c'est parti pour une bonne journée. Merci Thierry de vous être un petit peu dévoilé ce matin. C'est tout bénef pour les auditeurs. À tout de suite.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Ah oui, ils arrêtent net, ça c'est le problème des musiciens, c'est l'heure cachée et ensuite ils rentrent chez eux. 7h13, les connoisseurs, bien sûr. Curiosité, enthousiasme, goût du partage. Ils sont autour de la table avec Marie Missé, Atmen, Charlène est là ce matin aussi.
Bonjour Edouard.
Et puis bonjour à tous.
Bonjour.
Comment ça va ce matin?
On est bien.
Thierry paraît rester, c'est tout à fait gentil Thierry, au lieu d'aller
rejoindre je suis un bon copain, tu sais.
Les copains.
Il est réquisitionné.
Qu'est-ce que vous avez vu ce matin en ce surlendemain d'élection? Faites-moi écouter votre voix, Atmen, là.
Elle est très bonne, bonjour Edouard. Comment ça? Elle est meilleure que la vôtre hier soir à 9h. Avec vos amis, si vous voyez ce que je veux dire.
Je vais demander des photos de vous. Chère Marie Missé, qu'avez-vous observé ce matin?
Je ne sais pas, est-ce que vous voulez. Vous préférez les artistes en réalité virtuelle ou Johnny Hallyday?
Johnny.
Bon, un petit peu de tout.
J'ai l'impression que c'est un peu Johnny.
Salut, c'est
Johnny. Un petit peu de tout.
Non, mais j'ai vu dans le Figaro que TF1, enfin, le groupe de Martin Bouygues, lance un financement participatif pour restaurer un film de Johnny de 1963 qui avait été un succès colossal à l'époque. Il y a Sylvie Vartan aussi dedans qui était sa copine. Alors, je trouve ça quand même. Il demande 35 000 euros.
Retiens la nuit, c'est Retiens la nuit.
C'est pas Retiens la nuit. Il demande de. Vous voulez trouver le titre, Edouard?
Vous allez nous le dire après? Ah, pardon, j'attends, je suis patient, pardon.
Non, bah, parce qu'ensuite, je suis en train de le chercher là.
Chercher l'idole, ça s'appelait Chercher l'idole, non?
Non, c'était pas ça. Bref, ça se passe, ça c'est tourné en Camargue.
Ah,
vous savez, on attendait plein de westerns en Camargue.
Oui, c'est Johnny,
c'est là où chantait.
Si pour moi la vie va commencer.
C'était extraordinaire, les westerns camarguais. Oui, avec les.
Oui, et alors il y avait eu d'ailleurs à Arles, il y a quelques temps, une expo sur tous ces films Far West qui avaient été tournés en Camargue. Bref, j'ai trouvé ça quand même intéressant que Martin Bouygues lance, enfin pas Martin Bouygues lui-même, son groupe lance un financement participatif, 35 000 euros, il demande sur KissKissBankBank, c'est à peu près le prix d'une demi-émission sur TF1, donc on se demande pourquoi ils font ça, si ce n'est pour peut-être rassembler les soutiens de Johnny avant de lancer le DVD restauré de
D'où vient c'est élégant Johnny. D'aller demander de l'argent.
Ouais, je trouve ça un peu bizarre.
C'est une tradition, si c'est comme les jeux télévisés qui coûtent des millions, on donne 10 000 euros à une association, on a l'impression de faire le bien. Non, ça, c'est de haute qualité.
Okay. Mais il restaure quoi, Johnny ou le film?
Il restaure pour l'instant le
élégant,
film,
élégant pour
Atmen.
Quelqu'un qui va très mal, bravo Atmen.
Bien. On verra pour Johnny après. Qui dit qu'il va se mettre.
Si on peut plus rire.
Bon, allez prendre un café. Alors, les acteurs et la réalité virtuelle.
Ah, ça c'est les artistes et la réalité virtuelle, ça c'est un grand article dans Le Monde qui est assez fou. On nous explique que de plus en plus d'artistes utilisent la réalité virtuelle. Il y a notamment une application qui est très utilisée. Et alors par exemple, on nous décrit l'univers de Drew Kataoka, qui est une artiste japonaise, donc qui dessine des univers dans lesquels on peut rentrer. On parle de forêts orangées où la gravité n'existe pas, où des arbres poussent racines au ciel, un lac de pierre se déverse dans un abîme. Ça donne le vertige et l'envie de s'y pencher. Et il y a un autre artiste qui dit que finalement c'est un petit peu un rêve d'artiste puisqu'il y a plus aucune contrainte. Tout ce qui compte, c'est l'imagination. Et ça permet aux spectateurs de rentrer réellement dans le monde imaginée de l'artiste. Bref, c'est ce que ça offre comme possibilité aux sculpteurs, aux dessinateurs, etc. C'est un article qui fait, honnêtement, pour quelqu'un comme moi qui n'est pas particulièrement fan de réalité virtuelle, un peu rêver.
C'est bien, j'imagine que je ne suis pas très fan. Même la réalité qui n'est pas virtuelle ne me plaît pas. Alors
non,
la
mais je peux être
virtuelle.
Un peu méfiante et là, ça fait un peu rêver.
Merci Marie. D'autres choses ce matin ?
Oui, déjà mes excuses à tous les fans de Johnny. Et voilà, ça c'est fait.
Oui, oui, alors autre chose ?
Oui, alors il y a une grosse pénurie de beurre. Donc le croissant et les béninoiseries vont augmenter. Voilà, il fallait le dire. Le beurre coûte trop cher, il n'y a pas assez de lait parce que les Chinois veulent de plus en plus de lait. Donc il n'y a pas assez de vaches pour faire du lait. Donc il y a une espèce de
faute des Chinois, c'est quoi votre info ?
Ben si, c'est écrit, les pays asiatiques sont de plus en plus demandeurs de lait.
Bon.
Et donc il y a beaucoup moins de lait. Donc
les Chinois.
Ben vous avez une théorie de conspiration comme quoi des Chinois viendraient la nuit traire des vaches en France.
C'est voilà, bien. C'est ça. Ils nous envoient leurs tomates pour faire de la pizza et nous, on leur envoie notre lait. Voilà. Alors, voilà.
Moi, j'avais une version plus positive de cet article.
Voilà, une version plus positive.
Qui était que la demande en beurre explose parce que le beurre a des qualités nutritionnelles enfin reconnues par les scientifiques et que le beurre est en train de conquérir la planète. C'est,
c'est
ça
formidable
qu'il y a
parce que le beurre, c'est pas comme comme l'huile de colza ou de soja, c'est une chose qui pour la nature, ça veut dire plus de vaches, plus de camarades à cornes. Mais merci beaucoup.
Oui, mais la demande, positive. Vous pensez, la demande, votre information est positive, mais c'est lié quand même aux pays asiatiques qui veulent de plus en plus de beurre.
D'accord, man.
Je vous le dis, il faut le savoir.
Mais qu'est-ce qu'ils en font de tout ce beurre ? C'est très très lourd.
Parce qu'ils en consomment.
Oh, je te jure.
Avec les Bretons, ils font du kouign-amann, il paraît, qui est très très dur à faire.
C'est des Bretons chinois, ça, là.
Exactement, voilà, c'est ça.
Merci Michel Sardou. Thierry Paret.
Ouais. En tout cas, s'il n'y a plus assez de beurre, on pourra mettre sur les tartines du cannabis, par exemple. Ça sera possible de remplacer. Alors, par contre, il faudra aller en Uruguay, puisque le pays va vendre du cannabis à partir du mois prochain en pharmacie, et ce, à usage récréatif. Hein. C'est-à-dire, vous aurez droit à, je ne sais plus combien, 10 grammes. Voilà, 10 grammes par semaine de cannabis que vous pourrez acheter en pharmacie, mais en Uruguay.
Mais en Californie
uniquement.
Aussi, non ?
1 euro, ouais. 1,30 $ le gramme. Je ne crois pas en Californie à usage récréatif. Dans les pharmacies, je ne crois pas. Hein.
Récréatif.
Non, mais c'est surtout dans les pharmacies. Ça a été l'objet d'un gros débat en Uruguay et qui vient d'aboutir. Et donc voilà quoi. Ils ont déjà le droit.
Il faudra le stipuler en pharmacie, voilà. Dire c'est pour la récré. Vous inquiétez pas, c'est récréatif. Je vous jure que c'est pas sérieux.
J'ai un bon copain qui a besoin
d'aide. Oui, c'est vraiment récréatif.
On a appris deux mots aujourd'hui. TF1 veut dire le groupe Martin Bouygues et s'amuser veut dire récréatif. Voilà, c'est pas mal.
Ah bah, vous êtes de retour. Merci beaucoup. Charlène, on m'a signalé Charlène à Paris en studio.
Alors oui, moi aussi, je suis dans le thème de la consommation vorace de l'humanité. Puisque hier à Hong Kong, il y a eu une manifestation, des gens ont défilé déguisés en requins pour dénoncer la consommation d'ailerons de requins. On tue à peu près 70 millions de requins tous les ans pour manger leurs ailerons et utiliser leur peau.
70 millions. Et non, ça serait pas encore, c'est pas encore les Asiatiques. J'ai l'impression que ce matin, vous êtes bien
déchirés. Ils mettent du beurre sur les ailerons. Voilà,
essayez d'équilibrer un peu les Africains, les Européens, les Américains. Vous voyez, taper un petit peu sur chaque continent.
Ah oui, mais la manif était hier, j'y peux rien.
Les ailerons de requin, alors ils sont, pourquoi il ne faudrait pas en manger par rapport à d'autres animaux ?
Non, mais ça marche aussi avec les autres animaux, ce serait des ailerons de chat. Mais
avec la sole aussi, pareil. Par exemple ?
Oui, sûrement.
Il y a des types déguisés
aussi.
En sole.
Oui,
qui,
ouais. Je suis assez d'accord.
C'est pas facile de se déguiser en sole.
Oui.
C'est pas facile, c'est moins payant.
En même temps, quoi. C'est...
Il n'y avait pas un film de Spielberg avec des soles qui attaquait des gens ?
Si.
Non, c'était
ça
avec des
soles.
Il est moins connu.
Merci beaucoup, messieurs, dames.
Oui,
tout à l'heure.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Il y a encore de la presse écrite, il y a des gens pour la vendre, des gens pour venir l'acheter, des petits îlots de vie. Dans les villes, on appelle Philibert, notre ami kiosquier à Montreuil. Allô ?
Allô ?
Bonjour Philibert.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ben, on tient le coup, oui.
On a été content de vous voir passer en studio le mois dernier, vous rencontrer en chair et en os.
C'était un plaisir aussi.
Alors, deux jours après les premiers tours des législatives, est-ce qu'il y a un assaut sur la presse papier ? Est-ce qu'il y a une curiosité ? Est-ce que les gens viennent dévorer les commentaires sur les élections ?
Effectivement, il y a une curiosité parce que le changement que les gens voulaient se mettre en route, quoi. Voilà, les mecs se rendent compte qu'il faut vraiment changer. Alors, ils étaient curieux, ils veulent vraiment voir ce changement. Tout le monde disait chaque fois, alors il va commander avec quelle majorité ? la majorité commence à se clarifier.
Alors, il y a un côté à votre kiosque que j'ai l'impression de tradition orale, de conte. C'est-à-dire que les gens viennent acheter le journal, mais ils viennent surtout le commenter, l'actualité avec vous.
Effectivement, oui. J'essaie de voir dans quelle tendance les gens passent leur temps à voir ce qui a lieu de voir. Bon, il y a un peu de tout, quoi.
Mais est-ce que ça ne devient pas un peu un salon de conversation? Vous pourriez mettre des tapis au sol, tout le monde s'asserrait autour de vous, et ça serait un salon de lecture. Vous pourriez commenter la presse, ça serait une belle évolution pour le métier de kiosquier.
Oui, et même un salon de thé, pourquoi pas?
Oui, avec du thé rouge aussi, enfin, oui, oui. Le thé issu de nos vignes. Oui. Et est-ce que vous avez l'impression que le mot En Marche, si on le rajoute, on peut vendre de tout avec? Vous pouvez dire kiosquier En Marche, le journal En Marche, et ça peut monter les ventes.
Mais c'est ce que je suis en train de faire. Alors, ici, j'ai un candidat qui est de la France Soumise. J'étais en train de m'amuser. J'ai dit tout En Marche. Alors, c'était pas très glorieux pour eux. Parce que je disais tout En Marche. Alors, pourquoi tout En Marche? Alors, quand ils entendaient tout En Marche, ils se disaient, ah, il y a quelque chose qui se passe quelque part là à côté.
Et dites-moi, Philobert, est-ce que recommandez-nous, tiens, pour cette semaine, un hebdomadaire ou un mensuel qu'on ne connaît pas, qui est caché comme ça dans l'enfer du kiosque et que vous nous recommandez à la lecture?
Alors, il y en a un vraiment superbe, c'est le One Day. One Day, c'est, si vous voyez, le One Day, le W qui se fait comme un M à l'envers.
Oui.
Voilà. Alors, si vous voyez...
Ah oui, c'est pas Monday, c'est One Day, oui.
One Day, voilà. Au lieu du monde, voilà, ils ont écrit One Day.
Et c'est quoi ça?
Le monde à l'envers. Oh ben, c'est un satirique. Si vous voyez ça, c'est pas marrant, hein, même les photos qui sont dessus.
C'est marrant ou c'est pas marrant? J'ai pas compris.
C'est pas du tout marrant, il y a des drôles de photos dessus.
Ah, vous nous le recommandez pas? Je comprends rien du tout.
Ah oui, je vous assure, si vous allez quelque part, demandez le One Day. Vous
allez, il faut voir le demander pas... Bon, très bien. Eh bien, merci pour votre conseil du jour, Philippe.
Il n'y a pas de quoi.
Salut. Il y a du monde ce matin? Vos habitués sont passés?
Un peu, quelques-uns sont déjà passés, oui.
C'est que, décrivez-moi un de vos habitués du kiosque.
Oh, c'est des gens qui travaillent à la première heure.
Qui s'arrêtent sur le chemin du travail.
Voilà.
Donc, il faut leur rendre le journal et les mettre de bonne humeur.
Des anciens qui ne dorment pas beaucoup. Ils sont obligés de venir compléter la fin de la nuit avec la lecture du journal quotidien.
Ah, c'est la fin de la nuit, oui. Ils ont
voilà.
Mais, merci, belle journée à vous. Nous, on a la lecture, le quotidien oral, le journal oral de Thierry Parel, rappel de 7h30.
Seuls 22,7 millions d'électeurs se sont exprimés dimanche au premier tour des élections législatives, avec 51,3% des 47,5 millions d'inscrits qui ne sont pas allés voter dimanche. Les résultats de ce premier tour des élections législatives doivent être remis en perspective, et dans une configuration où l'abstention est comptabilisée, le raz-de-marée de La République En Marche, finalement, n'a pas tout à fait la même allure. Et quant aux autres partis, ils sont relégués carrément aux oubliettes. Produits chimiques, manipulation de médicaments anticancéreux, poussière de bois, mais aussi émissions de moteurs diesel ou encore travail de nuit. Une étude publiée dans le bulletin épidémiologique rapporte que près de 2,6 millions de salariés ont été exposés à leur poste de travail à au moins une nuisance cancérogène. La mémoire qui joue des vilains tours au professeur Michel Aubier, auditionné le 16 avril 2015 devant la commission d'enquête sénatoriale sur le coût économique et financier de la pollution de l'air en sa qualité de chef du service pneumologie de l'hôpital Bichat à Paris. Il avait déclaré qu'il n'avait aucun lien avec les acteurs économiques du secteur, en oubliant de préciser qu'il était salarié depuis 1997 par le groupe Total, rémunéré près de 150 000 euros par an. L'opposant Alexei Navalny et plus d'un millier de ses partisans ont été interpellés hier alors qu'il défiait les autorités dans toute la Russie lors d'une nouvelle journée de mobilisation contre la corruption des élites. L'horizon judiciaire de Donald Trump qui s'assombrit encore un peu plus. L'État du Maryland et la capitale fédérale, Washington, ont assigné en justice le président américain, lui reprochant d'accepter des paiements de gouvernements étrangers par l'intermédiaire de son empire immobilier. Le gouvernement israélien décide de réduire de trois quarts d'heure l'approvisionnement quotidien en courant de la bande de Gaza, faisant craindre de nouvelles tensions dans l'enclave, déjà en proie à une sévère pénurie de courant, hein, puisque les Gazaouis ne reçoivent au mieux que 3 ou 4 heures d'électricité publique par jour. C'est le projet européen le plus apprécié par les Français. Bruxelles célèbre officiellement cette semaine les 30 ans d'Erasmus, dispositif qui en France permet chaque année à 60 000 étudiants de partir pour un pays européen. France-Angleterre, c'est du football et c'est ce soir au Stade de France. Il s'agit d'un match amical L'équipe de France tentera de faire mieux qu'en Suède vendredi soir, où ils ont perdu 2-1. Et puis du basket américain pour finir avec la finale NBA. En s'imposant sur leur parquet hier soir 129 à 120, les Golden State Warriors ont remporté leur 4e victoire des finales 2017. Il y en a 5 en tout, face à Cleveland, et leur assurant donc du coup un 2e sacre en 3 ans.
Ils ont gardé Erasmus, Atmen, vous ?
Non, pas du tout. Non, Erasmus, je suis parti qu'à Paris, moi. J'ai fait Albi Paris.
C'est déjà. J'ai fait le Albi Paris, oui, c'est pas. Vous êtes fait vous-même, quoi.
Je me suis fait moi. Ils ont confirmé Hugo Lloris, le goal, pour ce soir.
Oui, il est capitaine en plus.
Ah ouais, ah bon. Non, ils sont pas rancuniers. Hein.
Non,
ils auraient pu quand même.
Suite,
ils auraient pu quand même.
Noé l'abandonne.
Maintenant, il ne faut pas abandonner. Moi, bonjour.
Bonjour, Jack.
J'étais pas très loin de Philibert. Et du coup il se fait aider par un ami qui s'appelle Gilbert. Donc il y a Gilbert et Philibert.
Il y a là, beaucoup de.
Il y a beaucoup de Bert, c'est ça ?
Oui, c'est un peu bizarre.
C'est mon cousin, Philibert. Donc,
je suis sûr qu'il y a des. Oui.
Avec la masse de travail qu'il a à faire, donc de temps en temps, je viens lui donner un petit coup de main.
Gilbert, est-ce que le fait qu'il soit votre cousin l'autorise à vous demander de lui donner un coup de main non rétribué, non rémunéré ?
Ah oui, c'est la famille, hein, c'est non rétribué. Oui.
L'affaire, c'est comment ? Si ça va, nous sommes sous la menace, si je ne viens pas, il va
c'est
fermer.
Ça hein. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un abus de la notion de famille dans certaines traditions africaines qui permet de faire travailler à l'œil des dizaines de personnes en disant « c'est mon cousin » ?
Voilà, peut-être. Peut-être, mais grâce à ça, nos entreprises tiennent encore, sinon c'est
absolument.
La fermeture.
Absolument.
Tenir quand plus rien ne tient.
Voilà, tenir quand plus rien ne tient. On est sous la menace de beaucoup de difficultés hein, en ce moment.
Alors pour vous, Gilbert... Ah oui, il y a la menace d'Internet pour la presse. Pour vous, Gilbert, un cousin, c'est un cousin forcément de sang ou on peut décréter que quelqu'un est son cousin ?
Non, c'est un cousin de sang.
Vous avez des cousins de plaisanterie aussi ?
Oui, bien sûr. Il y a des cousins aussi de plaisanterie. On se dit, on est des cousins. Ça peut se dire aussi, c'est possible.
Alors, on rappelle ce que c'est un cousin de plaisanterie pour les auditeurs ?
Un cousin de plaisanterie, c'est un ami qu'on aime, un ami africain. On peut se dire cousin africain et même les Européens peuvent se dire cousins, hein, s'ils sont des amis très proches. Voilà, c'est une manière de se familiariser.
Alors, il y a aussi quelqu'un qu'on connaît ça depuis l'enfance, avec qui on accepte la plaisanterie et qu'on peut vanner très fort, quoi, oui.
Voilà, c'est ça. Ouais,
alors, Gilbert, vous aidez Philibert le matin, et ensuite, quel est votre programme aujourd'hui ?
Ah, mon programme aujourd'hui, ce matin, je viens lui donner un petit coup de main, et le soir, je vais faire mon travail d'aider les personnes âgées.
Chez elle ou dans un hôpital, une maison de retraite ?
Dans une maison de retraite, oui.
Qu'est-ce que vous faites avec eux ?
Ben, la personne âgée, je m'occupe de lui, hein, je vais le promener.
C'est des gens avec qui il y en a, avec qui vous avez maintenant des liens d'amitié, ou c'est des gens qui ont toute leur tête, ou il y a de tout ?
Oui, il y a de tout. Hein. Je m'occupe d'une seule personne âgée. Donc, il va assez mieux en ce moment. Donc, parfois, bon, il y a des petites pertes de mémoire, mais... En général, ça va bien, je le promène, et puis toutes les nécessités, tous les gestes qu'il ne peut pas le faire, je l'aide à le faire aussi. Hein.
Qu'est-ce qui vous a raconté de sa vie, ce monsieur qui vous a touché, qui vous a intéressé ?
Ben, ce sont des amis qui m'ont proposé de garder leurs parents, et puis j'ai dit oui, bon, je peux les aider, et puis c'est parti comme ça. Ah, les histoires que le... Ah, c'était un pilote. Il a été pilote. Hein. Il a été pilote d'hélicoptère. Il avait son hélicoptère. Il me parlait d'Afrique, des voyages, plein de choses. Donc, c'est un monsieur qui aime beaucoup la lecture. Donc, vraiment, ce sont des périodes d'échange. Hein. On a des moments d'échange et on discute. Et il m'apprend beaucoup de choses. Il est très, 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 très intéressant.
Donc ça vous fait un peu des vacances après cette condition d'esclavage dans laquelle votre cousin Philibert vous met le matin. Très bonne matinée à vous.
Voilà, je vous raconte tout ça.
Je vous souhaite une belle journée. Salut la famille Bear.
Salut et félicitations à la
7h-9h plus près de toi.
Merci à vous aussi.
7h-9h, Edouard Bear.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Les métiers du cinéma, il n'y a pas que acteurs, metteurs en scène, preneurs de son. Les tournages font intervenir des métiers très différents, passionnants, très riches. On est avec Yves de Mongeau des Versaillais, le roi des effets spéciaux du cinéma. C'est quelqu'un qu'on reconnaît parce qu'au lieu de prendre son micro, là, il a pris son café. Donc Yves, ça ne passera pas, contrairement à vos trucages, le son ne passera pas dans la tasse à café. Et puis on est avec Thomas Girard qui est tailleur de pierre. Thomas, vous, c'est la première fois que vous intervenez sur un tournage ?
Oui, c'est la première fois là.
Alors, vous avez réalisé une fontaine en pierre pour le film.
Exactement. Là, j'ai répondu à la demande du chef déco du film qui manquait une fontaine sur la place du village. Et donc, voilà, je me suis plié à ce jeu. Je suis rentré dans le showbiz un peu.
Là, vous êtes à fond dans le showbiz. Est-ce que vous avez fait, comme vous l'avez pas fait en trucage, en faux, en déco, c'est une vraie fontaine en pierre?
C'est vrai. Ils étaient partis pour faire une fontaine un peu en factice. Hein, et puis, j'aurais dit, non, mais attendez... moi, j'arriverai à la revendre sans problème, autant qu'on fasse une fontaine, une vraie, celle qui manque au village. Voilà, et c'est comme ça que l'aventure a commencé.
Alors, elle est si belle, votre fontaine, qu'elle est là sur la place du village de Ventrolles, et le maire veut la garder.
Ah, probablement.
Alors, on en discute.
Et
vous allez me dire ce que c'est. Yves de Mongeau, c'est quoi les effets spéciaux sur un film? Parce qu'on voit ce que c'est que les trucages dans les films américains sur fond bleu, on rajoute des choses à la palette graphique. Vous, c'est le contraire, c'est tout ce qui est fait sur place. Pluie, explosion.
Ouais, les effets spéciaux en direct, d'ailleurs, je vais faire exploser sa fontaine.
Non, ça c'est pas...
Parce qu'il l'a fait en dur.
Alors là, vous intervenez sur des choses faciles, il va pleuvoir sur nous, il va y avoir des éclairs dans ce film de Pierre Godot qu'on fait ici. D'habitude, vous intervenez sur quoi, Yves?
À tous les styles de films, des comédies comme des films de guerre.
Il y a des explosions, beaucoup?
Oui, il y a beaucoup d'explosions, des films où il y a de la pyrotechnique. Des films comme Hors-la-Loi, Indigène, un long dimanche de fiançailles, où on joue avec de la poudre un peu. Enfin, de la poudre noire, pas de la poudre blanche.
Donc, dès qu'on se fait canarder, c'est vous.
Voilà.
Des impacts de balles, c'est quoi le maximum d'intervention? C'est plutôt des impacts de balles, plutôt de la pluie?
Ah, alors non, parce qu'en fait, dans les effets spéciaux, il y a plusieurs sections. Il y a les effets climatiques, où il y a de la pluie, du vent, de la fumée. Et dans les effets pyrotechniques, il y a du feu, des explosions, des impacts de balles. Après, il y a des véhicules qui brûlent, des gens qu'on tue, ceux qu'on n'aime pas surtout.
Ceux que le scénario n'aime pas, oui.
Voilà, ceux que le scénario n'aime pas, bien sûr.
Alors vous, c'est un truc un peu d'enfant de faire ça. Il y a des interventions qui vous excitent encore comme un gamin?
Ah, toujours, hein. Et je me rappelle, je me faisais engueuler par ma mère quand j'étais petit parce que je faisais brûler des trucs ou le courrier dans les boîtes aux lettres. Et aujourd'hui, on me paye une fortune, entre guillemets, on me paye... pour faire toutes ces conneries qu'on m'interdisait.
Alors j'ai rencontré Yves de Mongeau sur le tournage d'Astérix et Cléopâtre, où tout à coup il y a des soldats romains qui volaient de partout. C'était très impressionnant. Il y en a qui étaient des faux gonflés à l'hélium, il y avait de tout.
Il y avait de tout, il y en avait en polystyrène, il y en avait en plâtre, il y en avait en toile de parachute gonflée à l'hélium.
Oui, c'est ça. Donc quand Depardieu Obélix donne des claques, de temps en temps il y en a qui étaient, c'est ça. Il y avait des parachutes, donc il leur donnait une claque et ils partaient vers le ciel.
Voilà.
Alors Alain Chabat, on était comme des enfants de voir les idées que vous aviez.
Mais c'était des idées d'Alain. Moi, je fais que retranscrire ce que Alain voulait. Après, voilà.
Alors, c'est du bricolage, il faut inventer à chaque fois?
Alors, c'est pas du bricolage.
Non, enfin, je veux dire, dans le sens, c'est de l'invention à chaque fois.
Oui, mais à chaque fois, chaque film, même si vous faites de l'appui ou une impact, à chaque fois, c'est différent. Parce que le contexte est différent, parce que le décor est différent. Et la personne qui va prendre un impact de balle, par exemple, ne va pas réagir de la même manière selon ce qu'elle a à jouer.
Donc
même si elle doit mourir.
Donc il faut expliquer aux gens et aux comédiens, attention, là, ça va te péter dans ta fausse chemise. Il faut, oui.
Et il n'y a pas une concurrence du numérique? Est-ce que
la concurrence du numérique
n'est pas en train de bouffer, par exemple, sur les explosions, sur le sang ou les impacts de balles? Non, il n'y a pas le numérique qui vient un peu grignoter votre marché, là, monsieur? Non.
Pas un peu, énormément.
Énormément, oui.
Ouais, on a perdu en 15 ans 80% du boulot.
Ah oui, c'est quand même vachement plus poétique, ouais. Et plus étonnant, ouais. À l'image.
Mais
aussi,
on y revient, je crois. Il y a Christopher Nolan qui disait que c'était mieux de le faire en direct sur le plateau parce qu'à l'arrivée, les acteurs avaient des meilleures réactions que sur un fond vert, non?
Ben oui, parce que sur un fond vert, ils n'ont pas de repères. C'est très compliqué pour eux quand même. Mmh. Et alors même si les logiciels numériques avancent, se développent de plus en plus et les effets sont de plus en plus crédibles, malgré tout, il y a encore... alors pour les gens qui sont habitués à l'image quand on est en 35 mm et qu'aujourd'hui on tourne en numérique, les enfants, si vous voulez, qui ont été habitués avec les jeux vidéo et tout, se rendent pas compte. Mmh. de la différence entre un effet spécial fait en numérique ou fait en direct.
Fait à la
parce
main.
Parce que l'œil, fait à la main, comme tu dis.
Mais parce que l'œil... On le voit quand même sur le dernier Mad Max, il y a beaucoup d'effets spéciaux en direct et le film a marché, quoi, beaucoup mieux que si c'était du numérique, quoi.
Oui, alors je pense que le film, il a marché, pas parce que c'était des effets spéciaux.
Si, si. Yves est intervenu sur Alien aussi, de Jean-Pierre Jeunet, sur plein de films.
Ah oui.
Alors, Yves, vous êtes donc un magicien de l'instant. Mais quant à vous, excellente liaison, Thomas Girard, vous inscrivez dans le temps quand on travaille la pierre. C'est pour durer, puisque même beaucoup de vos interventions ont lieu dans des églises, des monastères.
Exactement, là. Je suis arrivé dans la région justement pour travailler sur le monastère d'Aigbel, grâce à un collègue qui était tombé de l'échafaudage. C'est comme ça, par hasard, que je suis arrivé.
Alors c'est pas grâce à sa chute, c'est grâce à lui.
C'est grâce à sa chute, je l'en remercie, merci.
Et, il a été poussé.
Et donc, à travailler sur le cloître, à la restauration du cloître, donc c'est ce que j'aime particulièrement dans la taille de pierre, c'est la restauration du patrimoine ancien. C'est vraiment émouvant de voir tous ces traces d'outils, ces marques de tâcherons, dire qu'on s'inscrit un peu dans une lignée, et puis que c'est fait pour durer. On a une certaine satisfaction de voir les choses finies, une fierté.
C'est un métier qui s'inscrit, oui, dans une tradition. Ça fait, il y a une sorte de noblesse. On se rappelle, moi, c'est juste quand j'étais gamin, il y avait le grand-père de Pagnol dans les Pagnols à qui il rendait hommage. Je dis, mon grand-père tailleur de pierre. C'est la première fois. Donc ce métier, je le connais que comme ça. Ça consiste en quoi? Donc on vous livre des blocs quand on vous fait une commande, par exemple pour une église, pour une maison. On choisit la matière avec vous. Vous conseillez ou...
Alors. On préconise, il y a des comme un médecin qui préconise une pierre plus qu'une autre pour un endroit qui se pour l'endroit où il va dans l'édifice. Donc il n'y a pas de mauvaise pierre, il y a une pierre qui est adaptée pour chaque ouvrage. Et donc notamment pour le monastère d'Aigbel, on extrayait la pierre sur place pour que ce soit vraiment la même pierre. Donc on sortait des rochers qu'on débitait, on a refait le dallage comme ça, on changeait les pierres. Avec vraiment la pierre la plus locale.
Alors on entend parler de la pierre là par la sculpture. Là il y a le film Rodin qui est dans les salles en ce moment. Qu'est-ce qu'on appelle la pierre noble par exemple? Est-ce qu'on est le plus fier de travailler pour un tailleur de pierre?
Il n'y a pas de pierre dure, il n'y a pas de pierre tendre, il n'y a que des bras mous, comme on dit dans le métier. Et je veux dire, il n'y a pas de pierre noble, pierre moins noble. Hein. Chaque pierre a ses propres qualités et ses propres défauts. Quoi. Mais donc, on va mettre une pierre non-gélive pour aller dehors, on va mettre une pierre qui soit la plus...
qui est adapté à ce qui se passe. Vous aimez la toucher, vous aimez la caresser?
Oui, j'aime la toucher, la caresser, l'écouter.
L'écouter, lui parler aussi.
Elle n'est pas très bavarde. Non,
tu vas te laisser faire, vous lui dites.
Pas trop l'habitude de parler. Elle ne me répond pas trop. Voilà.
Et qu'est-ce que vous faites avec le geste, c'est quoi? Ça ressemble au sculpteur? C'est à la main?
Ça ressemble au sculpteur. C'est un métier qui s'est quand même mécanisé. Moi, je suis un petit tailleur de pierre, ça reste très traditionnel, même avec l'outillage mécanique qu'on peut avoir aujourd'hui, pneumatique, tout ça. Ça reste très traditionnel. Donc, il y a toute une partie d'abord conception, tracé, épure, toute cette réflexion qu'il y a en amont, puis la taille et enfin la pose dans l'édifice. Donc c'est vraiment très complet et c'est ça qui est intéressant dans ce métier, quoi.
Dans l'œil de
Dieu. C'est pas saucissonné comme dans beaucoup de métiers
vous avez toute la filière en dehors de vous.
On a toute la filière, ça c'est ce qui est intéressant.
Dans l'œil de Yves de Mongeau, il y a des réflexions comment faire péter cette cheminée. Je vois bien que c'est deux métiers qui peuvent se compléter au cinéma, mais dans la vie vous allez vous foutre sur la gueule. Merci beaucoup à Thomas Girard, tailleur de pierre. Merci à Yves de Mongeau, exploseur de vie. À tout de suite.
7h, 9h, plus près. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h. Une actualité extrêmement actuelle.
Parce que Yves, là je sais que tu travailles sur Gaston Lagaffe où tu vas faire péter tous les bureaux. S'il fallait faire péter en effet spéciaux de cinéma les bureaux de Nova ou le studio, il faudrait faire quoi?
Ah, il faudrait déjà faire partir tout le monde, ça serait mieux. Parce que vous êtes quand même sympathique. Hein, mais par contre les locaux on s'en fout.
Hein,
on mettrait des petites charges de poudre noire et de TNT et un peu de dynamite,
et vas-y que
je t'envoie ça en l'air.
Voilà, mais on reste en cinéma, on fait pas une revendication corse ou basque ou bretonne.
En fait, on va faire semblant de le faire péter. On va
faire de la fumée.
On va faire ça visuellement plus que de la fumée. Mais
tu mettras du faux studio au-dessus du vrai.
Bah, par exemple, ouais. Et puis je mettrai pas de cordon détonnant, tu vois, ni de. Je mettrai juste un peu de poudre noire.
Voilà, mais gentil. Puis comme ça, on aura Thierry Paret un tout petit peu noirci, qui dirait un petit peu comme dans les BD, dire oh là là, ça a sauté. Puis le mec, il a juste un peu de suie sur la gueule.
Voilà, exactement.
Allez, on mettait le Thierry Paret, vous êtes prévenu, mon vieux. Le journal de 8 heures.
Radio Nova.
Oui, Thierry Paret arrive. Nous venons d'apprendre la disparition de Thierry Paret. Thierry Paret court dans les couloirs. Thierry Paret, es-tu là? Allô,
en
Thierry
tout cas, Atmen, oui. Vous meublez avec art, avec voilà. Élégance.
Thierry
et
Paré,
je sais que grâce
c'est...
à vous, même quand le journaliste du journal de 8 heures n'est pas en place, l'antenne est tenue.
Mais il est là, Thierry Paré, on l'adore. Voilà, non.
Qu'est-ce qui s'est passé, Thierry?
Oh, bah, je suis désolé, j'avais un problème de... Non, mais c'est un problème technique, mais ça peut arriver. Hein, voilà. Tiens, bonjour,
non,
monsieur.
C'est vous passerez à la compta, rendre votre blouse et vos crayons. Le journal de 8 heures et 40 secondes.
Alors, 3, 4, 5, personne ne sait encore combien de dossiers aboutiront finalement pour la reprise de Whirlpool Amiens. Dans la Somme, une quinzaine d'industriels ont manifesté leur intérêt pour le site. 4 sont considérés comme sérieux par les responsables syndicaux qui ont pu prendre connaissance des dossiers. L'ensemble de ces projets seront soumis au comité d'entreprise aujourd'hui. Produits chimiques, manipulation de médicaments anticancéreux, poussière de bois, mais aussi émissions de moteurs diesel ou encore travail de nuit. Bref, une étude publiée dans le bulletin épidémiologique rapporte que près de 6 millions de salariés ont été exposés à leur poste de travail à au moins une nuisance cancérogène. 22,77 en millions, le nombre d'électeurs qui se sont exprimés dimanche pour le premier tour des élections législatives. 22,7 millions seulement. Alors on peut le dire autrement, hein, plus de 51% des inscrits ne sont pas allés voter. En rapportant les voix obtenues au total des inscrits et non des votants, l'Alliance En Marche Modem ne comptabilise que 15,7% des voix. Les Républicains et leurs alliés de l'UDI tombent à 10,5%. Le Front National à 6,5%. Et la France Insoumise à 5,5. La mémoire joue des vilains tours au professeur Michel Aubier, auditionné en 2015 devant le Sénat sur le coût de la pollution de l'air en sa qualité de chef du service pneumologie de l'hôpital Bichat à Paris. Il avait déclaré qu'il n'avait aucun lien avec les acteurs économiques du secteur. Il oubliait simplement de préciser qu'il était salarié depuis 1997 par le groupe Total, rémunéré plus de 150 000 euros par an. L'opposant Alexei Navalny et plus d'un millier de ses partisans ont été interpellés hier alors qu'il défiait les autorités dans toute la Russie lors d'une nouvelle journée de mobilisation contre la corruption des élites. L'horizon judiciaire de Donald Trump qui s'assombrit un peu plus, l'État du Maryland et la capitale fédérale, Washington, ont assigné en justice le président américain, lui reprochant d'accepter des paiements de gouvernements étrangers par l'intermédiaire de son empire immobilier. Le gouvernement israélien qui décide de réduire de 3/4 l'approvisionnement quotidien en courant de la bande de Gaza, faisant craindre de nouvelles tensions dans l'enclave, hein, déjà en proie à une sévère pénurie de courant, puisque les Gazaouis ne reçoivent au mieux que 3 ou 4 heures d'électricité publique par jour. C'est le projet européen le plus apprécié par les Français, et quand on sait le peu de confiance dans les instances européennes, Bruxelles célèbre officiellement cette semaine les 30 ans d'Erasmus, dispositif qui en France permet chaque année à 60 000 étudiants de partir pour un pays européen. Il y a du foot et du basket. Alors, il y a du foot et il y avait du basket en fait. En basket, oui. C'est le basket américain avec la finale NBA. Ils se sont imposés sur leur parquet hier soir 129-120, les Golden State Warriors, et du coup, ils ont remporté leur 4e victoire des finales 2017 face à Cleveland, et cela leur assure tout simplement un 2e sacre en 3 ans. Et puis France-Angleterre, c'est du football et ça c'est ce soir au Stade de France. C'est un match amical. L'équipe de France tentera de faire mieux qu'en Suède vendredi dernier où ils ont perdu 2-1 et le gardien Lloris est titulaire et sera capitaine de l'équipe.
Il y aura Theresa May aussi, non,
dans l'équipe, non. Non,
dans le stade. Elle vient amicalement. Ah, okay. Non, elle vient amicalement.
Oui, mais pas sur le terrain.
Mais pas, oui, non, ça pas dans les. Oui, non.
D'abord, ça n'est pas mixte. Des... Ensuite, Theresa May, vous avez le droit d'avoir vos engagements politiques, de soutenir des dirigeants d'autres pays, d'autres partis politiques. Oui, mais
il y a déjà une négation, je trouve, dans son nom. Il y a Theresa May. Voilà, j'aime bien ça.
C'est excellent. Je vois Jack souvent.
Je suis au milieu d'une orangerie, il y a un verger, il y a 150 orangers ici devant la mairie de Montreuil. C'est assez incroyable ça. Je suis avec JD, les enfants de Montreuil. On a dégagé les palettes, l'orange marocaine, et on presse.
Salut Edouard.
Et ouais, salut.
On presse des jus d'orange et on en a servi un à ton collègue qui a l'air d'apprécier. C'est de la marocaine. Il aime pas mal les marocaines, apparemment.
Oui.
Voilà, ça te plaît.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette opération orange marocaine à Montreuil?
Alors, c'est pas une opération. On presse des oranges depuis déjà 3 ans à la mairie de Montreuil, à la Croix de Chavaux. Et on presse des oranges à la main. C'est très important. Pas de machine, pas d'industriel, rien. Voilà, tu viens, tu demandes un jus d'orange, on coupe des oranges et on te les presse.
Mais c'est vendu, c'est quand même pas offert.
Ah non, on te les vend, bien sûr.
Moi, quand j'étais gamin, il y avait un truc qui s'appelait un jus, un job. Et il y avait on pressait des jus d'orange dans la rue et on était censé trouver un boulot comme ça. Puis ils ont arrêté cette opération-là. Donc toi, tu t'occupes de ça? Tu es en train de presser des oranges?
C'est-à-dire, ouais, j'ai mon collègue qui est en train de presser des oranges. Et moi, bientôt, je vais aller sur mon stand qui se trouve à Croix-de-Chavaux. Et je vais faire la même chose que lui.
Tu tournes à combien d'oranges jour?
Je tourne à peu près à 40-45 kilos dans le milieu. Je suis roi de l'agrume.
40-45 kilos d'oranges, oui, ça fait. Ouais. Tu comptes 4-5 oranges par kilo?
Oui, au moins. Ça dépend du calibre de l'orange.
Donc tu tournes presque à 300 oranges jour là?
Ouais, à peu près, c'est ça.
600 moitié. C'est assez rentable à partir de combien?
C'est rentable tout de suite, au premier jus d'orange, c'est rentable. On a fait en sorte de créer quelque chose de très rentable très rapidement parce qu'on ne travaille pas plus pour gagner plus.
Et c'est un import que tu fais direct du Maroc? Tu vas au Maroc chercher tes oranges?
Non, quand même pas. Quand je vais au Maroc, c'est en vacances. Mais sinon, non, je vais à Rungis. C'est moins glamour. Mais,
c'est sympa, Rungis, quand même.
C'est Rungis, ouais. C'est un monde à part. C'est un monde à part.
Alors, pourquoi du jus d'orange plutôt qu'autre chose? C'est une idée à toi ou c'est une idée de la mairie?
Non, c'est une idée à moi. Pourquoi du jus d'orange? Parce que je me faisais bien chier dans ma vie. Ouais. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose et que je donne un sens aux choses. Et je me suis dit, pourquoi pas presser des jus d'orange dans la rue? Et ça a bien marché. Et puis quand j'étais voir la mairie pour leur dire, je vais presser des jus d'orange à la main, ils se sont dit, ouais, le mec est un peu bizarre. Et finalement, ça a bien pris.
T'as le temps de parler avec les gens, de rencontrer les habitants? Qu'est-ce qu'elle dit, cette dame?
Ça s'appelle une irruption de parole.
Qu'est-ce qu'elle dit?
Bon, rien. C'est un loup-garou. Si.
Elle n'est pas contente?
Non, elle n'est pas contente.
On va lui parler. Jack?
Qu'est-ce qu'il y a, madame? Ah, vous voulez pas? Vous voulez pas le micro?
Il faut le faire travailler. C'est le matin et soir, les gens qui voient le bus. C'est pas la crème, là. Oui, parce qu'ils l'ont dit, parce qu'il y a la crème, et lui, il travaille que le matin. La glace, là-bas.
Ah, je sais pas, on n'a pas vu le stand de glace. Il y a un stand de glace quelque part.
Il y a les glaces Martinez aussi à Montreuil. Qui sont une institution.
Ça a l'air d'énerver cette dame, cette histoire de crème. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la crème de jour?
Elle veut parler de glace, non.
Et elle est énervante? Il y a des glaces qui énervent en ce moment?
Non, elle n'est pas énervée.
Elle est gentille.
Oh, ouais.
Ah non, je la comprends, cette dame. Il y a des glaces qui peuvent énerver.
Mais venez, madame, venez. Venez, vous êtes devant l'ascenseur pour descendre dans le métro. 56 ans à Montreuil. 56 ans à Montreuil.
Ça fait, mais 56 ans en France, à Montreuil. Et Montreuil, ça a changé maintenant. Les vrais Français sont partis, reste que la racaille.
Pourquoi vous dites ça?
Parce qu'on en a marre, monsieur. On en a marre. Nous, les anciens, on en a marre. C'était pas comme ça, la France. C'était nous, on peut pas parler maintenant. Ils massacrent les policiers, c'est quoi?
Irruption de
massacre.
C'est la minute, j'en peux plus.
Les politiques, les jeunes nous énervent, les crèmes nous mettent en colère, les glaces, les sorbets, tous ces produits qui, dès le matin, refroidissent. Et puis fureur contre les gâteaux, contre les fruits et légumes. Les colères qui naissent d'on ne sait où, qui se baladent d'on ne sait pourquoi, qui ressurgissent dans des têtes et puis dans des bouches, et puis la peur de vieillir, la peur de s'isoler, la peur que le monde change trop vite, de ne pas s'y adapter. La colère comme dernier rempart. Moi aussi je suis énervé ce matin. À tout de suite.
Plus près de toi. 7h, 9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
Et des chansons de...
Attends, que c'est quoi ça? J'ai coupé ça, pardon. On entendait nos voix, t'as vu? C'était bizarre?
Et des chansons de ma petite sœur.
Mais c'est-à-dire qu'avec ta sœur et toi, vous écrivez des chansons?
Et mon frère.
Et ton papa les chante? Et c'est quoi les paroles?
Je sais plus.
Tu sais plus? Et toi, donc t'es habitué à parler dans un micro, vous avez un petit micro à la maison, vous pouvez tous chanter.
Mmh.
Et tu fais des spectacles avec ta sœur et ton frère?
Non.
Non.
Ma sœur, elle a 1 an et demi.
Ah oui, c'est un petit peu tôt peut-être. Mais toi, tu aimes bien te déguiser par exemple? En quoi?
En clown.
En clown, c'est vrai? Avec le maquillage? T'as vu des clowns où?
Nulle part.
T'es pas allé au cirque? Et t'as vu à la télé des clowns?
Non.
Ah, il faut que tu ailles au cirque, parce que toi, tu habites à Valréas, c'est ça?
Oui.
Et on va se faire engueuler si t'es pas à l'école à 8h30? Non, il n'y a pas de problème. Alors regarde, tiens le micro comme si tu étais une chanteuse. Ouh là là, cette mauvaise toux avec la température qu'il fait. Et tu vas nous dire le mille pattes. Je suis avec Lola, qui t'es plus toute jeune, t'as 6 ans déjà. Ben dis donc. Et dis donc, si tu me fais juste des signes avec la tête au lieu de me dire oui, les gens ils vont pas t'entendre du tout à la radio. Alors il faut que tu me dises, hein. Alors je te laisse dire le mille pattes. Tu l'as déjà dit à l'école celui-là. Qu'est-ce qu'elle t'a dit la maîtresse quand t'as dit le poème?
Très bien.
Très bien. Eh ben alors, si c'est très bien, c'est bravo.
Bravo.
C'est le mille pattes par Lola. Je t'écoute, ma chérie. Tiens, je te tiens ça. Voilà.
Le mille pattes. Il était mille fois mille petits mille pattes qui, pour aller à l'école, lassaient leur mille souliers. Lassaient mille souliers, c'est si long, c'est compliqué, que quand ils eurent fini, c'était presque minuit et l'école était fermée. C'est pourquoi le mille pattes, parce qu'il n'a jamais le temps, au lieu d'aller à l'école, courut pattes dans les champs. Il ne sait, hélas, ni lire, ni écrire, ni compter, même ses milliers de pieds, Charles Simon.
Tu en as vu pour de vrai des mille pattes ou pas?
Oui.
Et ça correspond un petit peu à ce qu'il dit, Charles Simon? C'est quoi, qu'est-ce que tu connais d'autre comme insecte?
Des mouches.
Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Des moucherons, des abeilles.
Oui.
Des araignées, des fourmis, des escargots.
C'est un gros insecte.
Gros insecte, escargot.
Sa maison d'insectes sur le dos. C'est quoi tes insectes préférés?
Les crocodiles et les requins.
Ah oui, c'est très gentils insectes. Gros insectes là. Lola, méfie-toi si tu crois ces gros insectes sur la route de l'école. On te fait des bisous, on te laisse partir. Bravo en tout cas, t'as mérité ton très bien. Tu fais un bisou à tout le monde? Ah, c'est un petit bisou, mais très joli. Salut, bravo Lola. 1, 2, 3, 4. Il est déjà 8h18 ici, dans cette maison qu'on nous a prêtée pour ce tournage de cinéma dans lequel je suis, là, à Ventrolles, au-dessus de Nyons. Il y a Yves de Mongeau, le chef artificier, le chef des effets spéciaux du film, qui marche sur la terrasse. Je ne sais pas ce qu'il regarde. Il regarde des insectes, je crois, au mur. Il est en mode naturaliste. Et puis, François Rollin est complètement ailleurs. Vous êtes où, cher François?
Eh bien, je suis à Marseille. Mais comme j'ai déjà dit la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais à Marseille, je vais faire comme les journalistes, je suis dans la cité phocéenne, Edouard.
Ah, vous voulez dire qu'à chaque fois, il y aura un synonyme, il y aura une équivalence, mais jamais le même mot?
Bah, oui, parce que Marseille est multiple, parce que Marseille, c'est la couleur, Marseille, c'est la ville aux mille facettes, Marseille.
C'est tout à votre honneur, oui. Je suis de cité phocéenne, je suis près du vieux port, je suis non loin de la Canebière. Oui, vous avez beaucoup, beaucoup de choses, de variations autour du même thème.
Bah oui.
François, y a-t-il un animal ce mardi, même si nous n'avons pas apporté, armez-moi, votre générique avec nous?
Un peu, bon neveu, un peu. Ce matin, Edouard, nous allons nous intéresser à l'hippocampe, autrement nommé cheval des mers, à ne pas confondre par conséquent avec son sosie l'hippopotame, qui est le cheval des fleuves. Focus donc sur l'hippocampe avec cette question brûlante. L'hippocampe constitue-t-il une menace pour l'homme? En d'autres termes, l'espèce humaine peut-elle s'éteindre sous la pression conquérante des hippocampes rassemblés? Il faudrait pour ça, dans un premier temps, que l'hippocampe gagne un peu en poids et en taille, puisque dans sa version actuelle, il ne pèse que quelques grammes et ne mesure pas plus d'une dizaine de centimètres. Il faudrait donc qu'il grandisse et qu'il grossisse. C'est de l'ordre du possible. Avec un régime strict soupe et frites, en 6 mois, on devrait obtenir des résultats convaincants. Il faudrait ensuite que l'hippocampe quitte la mer pour envahir la terre. Il n'y parviendra pas du premier coup, mais avec un entraînement soutenu à l'apnée, là encore, c'est possible. Il faudrait ensuite que les hippocampes disposent de faux papiers pour passer les contrôles aux frontières. Ce n'est malheureusement, vous le savez, Edouard, qu'une question d'argent. Vite réglé par conséquent, on reste dans le possible. Il faudrait enfin que les hippocampes aient envie de nous anéantir. Eux, dont l'instinct de prédateur, vous le savez, n'est pas très développé. Eux qui semblent de nature plutôt pacifique. Mais si les hippocampes apprennent que les Chinois les capturent par millions, qu'ils les font sécher comme de vulgaires champignons noirs pour s'en servir en pharmacie comme aphrodisiaque, alors ils peuvent se fâcher. C'est très possible, c'est même probable. Il est raisonnable, Edouard, d'avoir peur de l'hippocampe. C'est pourquoi, de mon côté, quand j'apprends que chez l'hippocampe, c'est le mâle qui assure dans son ventre la gestation des œufs, je dissimule mon indignation bien naturelle et je dis simplement d'un air détendu, eh ben ouais, pourquoi pas.
Et merci, voilà. Cher François, merci. J'en ai froid dans le dos, hein. Plus que jamais, j'ai l'impression que le monde est une somme de menaces insoupçonnées.
Alors, ne cédons pas au catastrophisme.
Oui, vous avez raison.
Mais je crois que ça doit nous inciter surtout, avec Nicolas Hulot, à avoir plus de respect pour cet animal et à renoncer aux aphrodisiaques.
Moi, merci, François.
Je conseille bien sûr d'écouter l'émission d'Edouard Vert, plus pas de toi.
Merci, ça, François. Avec Nicolas Hulot et avec ces conseils de vigilance de voisinage que vous êtes en train de mettre en place partout en France, appelez votre police avec un numéro anonyme dès qu'il se passe quelque chose dans le quartier.
Oui, oui, même rester en ligne avec la police. Oui. Des fois que...
Et puis ce conseil de délation sur lequel on reviendra, que vous mettez en place dans d'autres régions. Merci, François Rollin. Joyeux Marseille. Ici, nous retournons à Paris dans une ambiance plus douce, bien sûr, avec...
Vous
mettez
vous
pas un
dites.
Fond musical, Armel M. C'est très bricolé, l'émission.
Qui c'est qui
voilà,
dit
c'était pour changer d'ambiance, Marie. Vous avez compris l'idée?
Oui, mais ce sera pas doux.
Mais si, qui c'est qui a dit qu'elle travaille pas, qu'elle fait que lire le journal?
Tu le fais à la bouche, l'accent de
Dupuche.
Non, ici, on a son générique, je crois.
Ah, chouette.
Alors, merci à Atmen pour cette participation. Vous auriez pu faire l'animal du mardi. Vous l'auriez fait comment, l'animal du mardi?
Eh bien, je vais vous parler du dromadaire qui a deux mots.
Non, il faut faire le jingle.
À l'animal du mardi.
Je sais pas. Oui, je sais pas. Enfin, on a bien fait de pas le faire. Cher Marie.
Oui.
Jingle.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie. Missé.
Bonsoir, bonjour.
Ah bah bonjour.
Pardon, dis pas bonsoir.
Bonjour, bonjour. Enfin, s'il paraît que c'est la signature de cette matinale, c'est la seule où on se dit bonsoir.
Dans la revue de presse ce matin, j'ai décidé de m'échapper, ça fait un peu de bien, des législatives françaises. Je vous emmène en Russie. Hier avaient lieu des manifestations dans plusieurs villes en Russie contre la corruption. Manifestation dirigée par celui que le Figaro appelle ce matin le trublion de la politique russe et principal opposant à Poutine en ce moment. Il s'agit de Alexei Navalny. Il n'a en fait pas pu vraiment fédérer les manifestants hier puisqu'il a été interpellé, toujours le Figaro, dès qu'il a mis son petit nez dehors. De manière générale, il ne faut pas croire qu'on laisse les coups des franches à Alexei Navalny et c'est le sens d'un article de Libé. D'abord, Navalny est évidemment sous le coup de plusieurs procès et de fait, il galère à ouvrir des QG de son mouvement un peu partout en Russie, à Vologda, à Volgograd, Vladimir ou encore Krasnodar. Les propriétaires ont plusieurs fois annulé au dernier moment les contrats de location. À Vladivostok, les autorités ont fait mieux, ils ont décidé de changer les serrures en attendant que le propriétaire renonce. À Moscou, il a fallu s'y prendre à deux fois pour inaugurer le QG central qui devait hier coordonner les troupes un peu partout en Russie et diffuser un live stream de la manif. Bizarrement, nous dit le Figaro, au moment où Navalny a été arrêté né dehors, Internet a été coupé dans le QG de Moscou. Le Monde fait quand même un petit point sur cet opposant. Le seul vivace qui a failli remporter la mairie de Moscou en 2013, rappelle le quotidien. Le Monde rappelle quand même qu'avant de se lancer dans un discours avant tout anticorruption, qui résume tout entier son programme, Navalny a commencé dans les rangs nationalistes, très nationalistes, mouvement dont il ne s'est réellement éloigné qu'au moment de l'annexion de la Crimée, qu'il ne soutient pas. Alors, ce n'est pas sans doute l'opposant idéal, dit le jeune Nicolas Cassiano. Il a 19 ans, mais il a le mérite d'être là, toujours dans le monde. C'est surtout qu'il n'y a personne d'autre. La jeunesse des manifestants est au centre des articles. Leur présence massive lors de la manif, notamment du 26 mars, dit Le Monde, a étonné la Russie tout entière. Dans la manifestation d'hier, dit Le Figaro, encore beaucoup de jeunes. Ils sont jeunes, roués et prudents, nous dit-on, et étonnamment pacifistes. Eh bien, cette jeunesse en colère, elle inquiète. Libé raconte que la chanteuse pop Alissa Vox a été payée par le Kremlin pour un clip où elle donne la fessée aux jeunes manifestants tout en chantant « La liberté, l'argent, les filles, tu auras tout, même le pouvoir. Alors gamin, reste en dehors de la politique et lave-toi le cerveau ». lave-toi le cerveau. L'injonction est très explicite et assez dingue. On est clair, au moins. Elena, 30 ans, chargée de la communication du mouvement sur le web, explique « C'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes. Ils ne regardent pas la télévision. Ils s'informent beaucoup sur Internet. Et ils ne connaissent pas la propagande de Poutine. » Alors peut-être qu'une partie de l'explication est là et explique à la fois que les autres Russes sont étonnés de voir des jeunes vent debout. On ne les voit pas à la télévision russe. C'est elle, peut-être, une partie du problème. La télévision russe, la revue Feuilleton, diffusait le reportage cet hiver du romancier américain grandi dans la Russie soviétique, Gary Steingart. Il a passé une semaine à regarder la télévision russe toute la journée pour le magazine du New York Times. Le résultat est vraiment drôle et halluciné. Il est prévenu par un pote trentenaire de Saint-Pétersbourg qui lui dit « Attention, la télé russe, ce sera mauvais pour ta psyché et ta santé. C'est méga toxique. » L'article est en effet édifiant. À la télé russe, les mots n'ont plus de sens. Tout le monde se fait traiter de fasciste, de nazi ou de néo-nazi. Si bien qu'un jour, Gary regarde sa montre en se disant « C'est dingue, ça fait une minute. » Et aucune mention du fascisme, nazisme ou néo-nazisme de l'Ouest. Au sixième jour, désespéré, il dit « Oh et puis zut, je vais me mettre à picoler après le petit déjeuner. Voilà tout. Fini le rasage, fini les vêtements, tout ça. » Au septième, il dit « Là est le génie de la télévision russe et la raison pour laquelle une semaine à la regarder est si douloureuse. À moins que vous ne soyez un vrai fidèle, son brouhaha incessant ne fait que vous rappeler à quel point vous êtes seul dans l'univers d'un autre. Cet autre, c'est Vladimirovitch Poutine. Ceci, ce sont ses chaînes, ses émissions, ses rêves et sa foi. » Pour se donner un peu d'air, après son énième visionnage d'un simili Eurovision où on se moque de Conchita Wurst en déclarant qu'elle est la chute de l'Occident, il se branche transgressif sur des sites d'infos progressistes russes. Il respire et se lave un petit peu le cerveau.
Merci beaucoup Marie Missé, voilà. Vous êtes la seule à prononcer le mot Kremlin jusqu'au bout, à tenter un Kremlin.
Et j'aime bien.
Qui n'était pas inintéressant.
Non, et ce n'est pas la première fois que je le fais.
Oui, mais c'est votre signature. Si vous voulez, très beau portrait. Oui. N'hésitez pas à lire le magnifique Limonov d'Emmanuel Carrère, qui est le portrait de cet ancien dissident atypique, aussi un peu ultranationaliste, très étrange. Et on voit tout ce folklore-là, tout ce bastringue de la jeunesse dissidente russe, et poétique et violente. Merci
New York.
Marie.
En tout cas, c'était magnifique parce qu'on a appris que la télévision russe fait boire, c'est ça en fait que j'ai compris.
Bah lui, il en peut plus.
Vous retenez ce qui vous arrange, mon vieux. Oui, c'est très très bizarre, c'est très étrange d'avoir retenu ça. À tout de suite, merci.
7h, 9h, plus près de toi.
On va plus près de toi.
7h, 9h,
Edouard Baird.
Je passe une matinée, mon Dieu.
Info, c'est des vieux jingles que j'ai récupérés.
J'ai racheté des stocks de vieux jingles. Info.
C'est
voilà.
Très vieux. Donc, ça comme jingle. Très vieux. C'est très vieux ça comme jingle.
Oui, on va
c'est
vous parler, monsieur.
C'est pas nous ça.
Cher, j'ai le droit de m'en servir.
D'accord.
Ça m'appartient. Les droits m'appartiennent. J'ai le droit de faire.
On vous les laisse.
Info.
Les droits, on vous les laisse.
Oui, mais je suis désolé pour les autres. 8h31, 30, c'est
40.
C'est mon titi pareil. Qui paraît. Ils peuvent tromper.
Radio Nova. Selon une étude présentée par l'Agence sanitaire de santé publique entre 2006 et 2015, le nombre de cas de maigreur est passé de 4,3% à 19,6% chez les jeunes filles de 11 à 14 ans. On ne parle pas d'anorexie, mais bien de maigreur. Alors là, en l'occurrence, maigreur extrême. Il n'y a pas d'explication, c'est comme une mode. D'ailleurs, les adolescentes n'hésitent pas à se lancer des défis maigreurs sur Internet, plus stupides les uns que les autres. On peut en citer un, le Challenge A4. Il s'agit de placer une feuille A4 devant son nombril, dans le sens de la hauteur, et il faut que le corps ne dépasse pas sur les côtés. Produits chimiques, non Marie, ça marche pas sur toi. Produits chimiques, manipulation de médicaments anticancéreux, poussière de bois, mais aussi émissions de moteurs diesel ou encore travail de nuit. Une étude publiée dans le bulletin épidémiologique rapporte que près de 2,6 millions de salariés ont été exposés à leur poste de travail à au moins une nuisance cancérogène. 3, 4, 5, personne ne sait encore combien de dossiers aboutiront finalement pour la reprise de Whirlpool Amiens dans la Somme. Une quinzaine d'industriels ont manifesté leur intérêt pour le site. 4 sont considérés comme sérieux par les responsables syndicaux qui ont pu prendre connaissance des dossiers. L'ensemble de ces projets, en tout cas, sera soumis à un comité d'entreprise aujourd'hui. Le premier tour des élections législatives dimanche a vu un nombre record de femmes qualifiées pour le second tour. 246 femmes sont arrivées en tête au premier tour contre 331 hommes. 22,7 millions, c'est le nombre d'électeurs qui se sont exprimés dimanche pour le premier tour des législatives. 22,7 millions seulement. En rapportant les voix obtenues au total des inscrits et non des votants, l'Alliance En Marche Modem ne comptabilise que 15,7% des voix. Alors chez les autres, c'est bien pire. pire. Les Républicains et leurs alliés de l'UDI tombent à 10,5, le Front National à 6,5 et la France Insoumise à 5,5. La mémoire joue des vilains tours au professeur Michel Aubier, chef du service pneumologie de l'hôpital Bichat à Paris, auditionné en 2015 devant le Sénat sur le coût de la pollution de l'air. Il avait déclaré qu'il n'avait aucun lien avec les acteurs économiques du secteur. Il avait juste oublié de préciser qu'il était salarié depuis 1997 par le groupe Total, rémunéré plus de 150 000 euros par an. Marie en a parlé tout à l'heure, l'opposant Alexis Navalny et plus d'un millier de ses partisans ont été interpellés alors qu'il défiait les autorités dans toute la Russie lors d'une nouvelle journée de mobilisation contre la corruption des élites. L'horizon judiciaire de Donald Trump qui s'assombrit un peu. L'État du Maryland et la capitale fédérale, Washington, ont assigné en justice le président américain, lui reprochant d'accepter des paiements de gouvernements étrangers par l'intermédiaire de son empire immobilier. Le gouvernement israélien a décidé de réduire de 3/4 l'approvisionnement quotidien en courant de la bande de Gaza, faisant craindre de nouvelles tensions dans l'enclave, déjà en proie à une sévère pénurie de courant, puisque les Gazaouis ne reçoivent au mieux que 3 à 4 heures d'électricité publique par jour. France-Angleterre, c'est du foot et c'est ce soir au Stade de France. Il s'agit d'un match amical. L'équipe de France tentera de faire mieux qu'en Suède vendredi dernier où ils ont perdu 2-1. Et puis en basket américain, la finale NBA, en s'imposant sur leur parquet hier soir 129-120, les Golden State Warriors ont remporté leur 4e victoire des finales 2017 face à Cleveland, leur assurant donc un 2e sacre en 3 ans.
C'est quel sport est sur du parquet ?
Le basket. Notamment.
C'est du quoi ? C'est des lattes de bois ?
Non, on dit un parquet,
je sais pas, oui.
Mais un parquet, donc ça veut dire que c'est du bois ?
Si, il a raison, Edouard, c'est du bois, non ?
Oui,
et donc il y a des menuisiers spécialisés en terrain de basket, vous croyez ?
Oui.
Je pense
faudrait... que si tu... Pourquoi vous n'êtes pas renseigné ? Je ne comprends pas.
On ne peut pas tout savoir non plus.
Non, mais attendez, ne vous en mêlez pas, là. Ça se passe entre Thierry Paré et moi.
J'avais compris.
Thierry, vous êtes journaliste, vous devez vous intéresser à ça.
Oui, enfin, je sais pas, parce que j'ai Atman qui me dit un truc, toi qui me dis un autre.
Quand l'équipe de France joue en Suède l'hiver en extérieur, est-ce qu'il s'habille pareil que s'il joue au Mali l'été ? Vous êtes renseigné là-dessus ?
Ben oui. Alors,
ou est-ce qu'ils ont des shorts de laine ?
Je suis à deux doigts de rendre ma carte de presse.
Et dans je pose des questions, c'est tout, je suis citoyen.
Et dans le Maryland, il y a des dauphins ou pas ?
Oui, non, ça, je m'en fous.
Eh bien, nous, j'étais avec David, Pikachu à la scène, qui avait plein de réponses à vos questions, Edouard.
Oui.
Et à côté, il y a Françoise qui est à l'hôtel et qui attend son chèque de 60 euros qui va arriver peut-être vendredi.
Il me reste cette semaine.
Oui, il va arriver. Oui, il va arriver, Françoise, il sera là.
Et David, de l'autre côté, qui, lui, est un habitué de la place et il me disait que le matin, c'était plus sympa les gens que le soir.
Bonjour, je m'appelle Monsieur Santa Maria David Pikachu. Bon, Pikachu, c'est mon nom de scène que je passe toutes les semaines à Montreuil, Café de la Pêche pour les jeunes. Et les buts, c'est danser les dance floors en radio, musique des boîtes de nuit, quoi. Et
je comprends bien, monsieur.
Et j'ai passé une annonce, je suis handicapé, je ne peux pas lire ni écrire, tout ça, et je travaille peut-être de Necker. Et j'ai une marque, les gens foutent de ma gueule, les gens normaux, et nous, on est plus efficaces que les gens normaux, sur certaines choses.
Mais les gens se foutent pas de nous, puisque vous faites des spectacles aussi, vous m'avez dit, monsieur.
Oui, tous les jours, tous les week-ends, 300 personnes.
Bon, bah alors, vous voyez, vous-même, vous donnez un spectacle, donc il y a des gens qui viennent vous admirer, qui vous aiment bien.
Oui, mais pas tous, tous fiables. Hein.
Bon, et alors, qui se fout de votre gueule qu'est-ce qu'ils vous disent, ceux qui se foutent de votre gueule ?
Bah, ils disent, oh, une capée, il arrive, voilà.
Ah bon, mais alors, qu'est-ce que vous répondez ?
Ah bon, j'ai dit, une capée, ça peut arriver à n'importe qui, la maladie.
Il y a encore des gens qui se foutent de votre gueule, alors ?
Oui, tous les jours, de matin au soir.
Ah bon ? Bon, oui. Bah écoutez, alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?
Que j'ai fait, moi, Didi, attends voir. Quand t'es handicapé, tu me parleras après quand t'es handicapé. Et n'importe qui peut être handicapé, un accident dans la route, ça peut arriver.
Hein. Bah, évidemment,
là, ça se passe bien, vous bossez, vous êtes... Moi, je travaille sur handicapé, je travaille à l'hôpital de Necker pour les enfants malades, à côté de Montparnasse. Je suis parrain rouge à mi-temps, c'est-à-dire bénévole, et bancardier bénévole à mi-temps payé.
Et Pikachu, c'est votre surnom parce que vous faites le personnage de Pikachu sur scène ?
Oui, c'est mon nom, qui est chaque personne à nom de scène.
C'est quoi ce spectacle ?
C'est une danse, c'est des danses dance floor, boîte de nuit, fond de radio, c'est une musique de Prolition.
Ah bon, mais vous êtes en très bonne forme physique alors ?
Oui, bah oui, j'adore la musique, j'ai grandi dedans, moi.
Et il y a des chorés, il y a des chorégraphies et tout ?
Je répète dans mon studio qui me loue la salle par semaine, 30 euros par semaine, et je danse 3 jours par semaine.
Vous dansez combien de temps ? Ce qui est super, c'est que.
Je danse alors que je veux, pas de limite.
Et ça, c'est formidable parce que souvent, il y a des gens, quand on se moque d'eux, ils ont tendance à se cacher. Et ben vous, au contraire, vous avez raison, vous y allez, vous montez sur scène.
Voilà, moi, j'ai pas peur des gens, moi. La preuve,
eh ben, bravo.
La preuve, j'ai reçu une invitation pour les Bercy le 6 juillet, pour 15 000 personnes.
Ben dis donc. Bon, ben écoutez, prenez Jack Souvent avec vous aussi, il fera un bon Pikachu.
Et alors, merci David. Et alors, juste à côté, Edouard, une seconde, il y a Françoise.
Il y a Françoise, oui.
Qui est juste sur le banc.
Non,
pas les oreilles.
Non, pas les oreilles. C'est pour vous parler, Françoise.
Allô ?
Oui, Françoise. Oui, allô ?
Voilà,
pas,
Françoise, mets le casque doucement.
Oui, mettez le casque. Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Alors, ce chèque, il arrive vendredi ?
J'espère.
Bon, mais ils vous l'ont promis depuis... Oui ?
J'ai eu mon chèque lundi. Mais oui. Là, il est crac, il est parti. Alors, j'espère que cette semaine, je l'aurai encore.
Mais c'est pas le même, un autre.
Non, c'est l'aide sociale.
Et vous l'avez deux fois par semaine ?
Non, une fois par semaine. Mais là, j'ai eu lundi parce que la semaine dernière, j'ai rien eu du tout. Oh !
Donc, peut-être qu'il va venir vendredi.
Ben, j'espère. Hein,
on fera deux la même semaine.
Comme ça, j'aurai de l'argent.
Ben, ça serait bien. Oui.
Oui.
Ils sont pas réguliers, en fait, ces chèques ?
Ben si, c'est 60 euros.
Mais ils arrivent pas le même jour à chaque fois ?
Non, j'ai qu'un chèque dans la semaine. Mais là, la semaine dernière, j'ai pas eu mon chèque. Et la factrice m'a dit, tu l'auras lundi, ta lettre. Et j'ai eu lundi ma lettre et mon chèque dedans.
Et vous allez les prendre à la poste ou ils vous arrivent chez vous ?
Non, c'est la factrice qui me le donne.
Bon.
Et puis de là, je vais à la poste chercher.
Et là, la journée va se passer comment ? Là, vous êtes installé, il fait doux à Paris, vous êtes installé sur un banc, là, à Montreuil ?
Je suis assise, là, oui.
On se disait que vous regardiez les gens, quand vous regardez
les gens, leur cul, leurs jambes, tout ça.
Il y a des beaux culs ce matin ?
Trop gros.
Ah, trop gros, oui. Trop gros. Et il y a des jambes, il y a des belles jambes ?
Trop maigres.
Ah bon, bah alors alors ça porte pas des maigres, jambes maigres, ça peut pas porter un gros cul, ça fatigue
mais
très vite.
Vous croyez que je l'aurai cette semaine, mon chèque encore ?
Oh, je pense, moi, Jack, non ?
Ouais, je crois que c'est possible, on peut croiser les doigts.
On croise les doigts, en tout cas.
Voilà, croisons les doigts.
Merci beaucoup, monsieur.
Merci madame, c'est pas une promesse, hein, c'est un espoir avec vous. Je vous fais des bisous et on continue à regarder des jambes et des culs qui passent. À tout à l'heure, chère madame. Salut.
Plus près de toi.
7h, 9h.
Édouard Baird.
Je passe une matinée. Mon Dieu.
Marie Misset est à Paris, mais elle n'est pas seule. Elle est avec Antoine Lanuzel,
oui,
rédacteur en chef de Oui Demain.
On avait dit qu'il reviendrait et il revient.
À l'époque, oui, on l'avait dit. Et on tient ce qu'on dit, sauf pour l'histoire du chèque pour la dame de lundi. J'espère qu'elle n'a pas cru que c'était une garantie que je lui donnais.
Non, mais vous l'avez bien précisé, Edouard. Normalement,
merci,
c'est bon.
Merci, vous serez là pour témoigner à mon procès.
Je le dirai. Les Oui Demain, donc un magazine qui s'intéresse au futur et qui fête ses 5 ans. C'est Antoine Lanuzel, bonjour, qui est avec
bonjour
nous
Marie,
ce matin.
Bonjour Edouard.
Rédacteur en chef de Oui Demain. Alors, ça fait 5 ans que vous regardez le futur qui s'inscrit un petit peu déjà dans le présent. Ça fait un
excellent,
quinquennat.
Cette phrase.
5 ans, merci Edouard. Quels sont les changements en 5 ans que vous avez observés justement dans notre rapport au futur ?
Bah, dans notre rapport au futur, c'est forcément ce qui est en train d'évoluer technologiquement. Je pense à ça en priorité. Il faut dire qu'il se passe quand même énormément de choses sur ce front-là et beaucoup plus de choses que dans un quinquennat au sens politique du terme. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que là récemment, il y a eu la sortie de l'accord climat par les États-Unis et que se sont opposés à cette sortie seulement quelques entreprises qui sont en fait les derniers lobbies miniers, charbonniers des États-Unis, alors que le monde entier aujourd'hui est contre Trump. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé entre 2012 et 2017 une révolution qui est celle de la mutation de l'économie vers une économie décarbonée. Ça, c'est un exemple, et il s'est passé immensément de choses dans l'intervalle. À l'époque, pour rappeler, en 2012, il y avait des gens qui lisaient les articles de Oui Demain et qui nous disaient « Est-ce que c'est vraiment avec vos moulins à vent, sous-entendu les éoliennes, qu'on va faire tourner l'économie ?» Donc, il y avait vraiment
beaucoup de scepticisme
là-dessus. Aujourd'hui, c'est acté, on va vers cette économie. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième...
C'est sûr. On y va.
Ah, c'est évident. C'est évident. Les nouveaux vecteurs de croissance sont là. La preuve, c'est que même des entreprises comme ExxonMobil et General Electric, par exemple, ont marqué leur vive opposition à la sortie de l'accord par Trump. Le patron de General Electric a dit maintenant, c'est aux entreprises de faire le boulot parce que l'économie de demain est là. Donc ça, c'est une première chose. Et la seconde, c'est évidemment la généralisation du numérique dans nos vies avec tout ce que ça implique en termes de mode de travail, en termes de mode de vie.
J'ai l'impression que vous, dans la ligne éditoriale de Oui Demain, parce que c'est une revue que j'ai pas mal suivie, vous êtes passé quand même de quelque chose d'assez technophile, d'assez le futur c'est génial et tout sera merveilleux, à un truc un petit peu plus prudent quand même, un truc un petit peu plus sceptique.
Oui, forcément, on a affiné notre vision. En 2012, on ne se doutait pas que autant de secteurs allaient être bouleversés. Et évidemment, ils sont bouleversés pour le meilleur et pour le pire. Si on prend par exemple ce qu'on appelait à l'époque l'économie du partage, on avait mis tout ça dans ce panier qu'ils appelaient l'économie du partage. Alors, on avait mis Uber, Airbnb, etc. On se rend bien compte que tout ça, ce sont des modèles économiques qui changent avec des questions très, très prégnantes, sociales, qui se posent aujourd'hui sur la mutation de notre économie et ce que devient l'humain au milieu de tout ça.
Ouais, ça en 2012, vous aviez pas peut-être encore saisi que c'était un danger.
En 2012, on voyait surtout des plateformes qui permettaient aux particuliers d'échanger les uns avec les autres, et on voyait ça un peu comme un vecteur d'émancipation. Aujourd'hui, il y a tout un questionnement économique qui se pose autour de ça.
Et vous revenez une fois de plus dans ce numéro sur un truc qui va faire la révolution, qui a déjà commencé dans la science, c'est la technologie CRISPR. Edouard, est-ce que vous avez déjà entendu parler de CRISPR ?
Oui, mais enfin, je vais faire comme si je ne savais pas ce que c'était.
Vas-y. Antoine, donc CRISPR, vous pouvez nous décrire en quelques mots parce que c'est vraiment compliqué, mais il y a des applications très simples.
C'est très compliqué. En fait, pour résumer, CRISPR, ce sont des ciseaux miniatures à l'échelle moléculaire qui permettent de découper un tout petit morceau du génome, donc un gène, et de le remplacer par un autre. Donc de faire un petit peu du copier-coller à l'échelle du génome. Et je souligne que c'est une invention qu'on doit notamment, c'est deux personnes, française. Une américaine et une française, qui s'appelle Emmanuelle Charpentier, et à qui on promet déjà le prix Nobel.
Le Nobel, oui, pas que, enfin avec d'autres gens, toute une équipe autour.
Oui, bien sûr, ça c'est pour incarner la chose.
De la réponse pour qu'on croit. Vous voyez, ma crédibilité est renforcée par cette intervention.
Typiquement, bravo. CRISPR, ça fait naître des interrogations, notamment chez Martin Hirsch, dont vous publiez une longue interview. Ça peut à la fois guérir des maladies génétiques, etc., mais ça peut mener beaucoup plus loin. On l'a vu avec les Chinois qui testaient, par exemple, sur des embryons humains avant même la naissance pour changer le code génétique.
Oui, ça reste encore assez flou. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en train de tester CRISPR, ça c'est avéré, il y aura une publication scientifique dans les mois qui viennent sur un patient qui est atteint d'un cancer du poumon et donc pour lequel on est en train d'essayer de, je dirais, reformater ses cellules, reformater son ADN pour le guérir. Donc pour l'instant, les tests cliniques ne font que démarrer sur l'homme, pas en Europe, pas en France en tout cas, où là on a quand même des lois qui sont très très coercitives, hein, là encore pour le meilleur et pour le pire. Hein, il y a beaucoup de scientifiques qui jasent contre le principe de précaution sur ces technologies-là parce qu'ils disent finalement, si c'est pas nous qui nous les approprions, ce sera d'autres. Et avec quelle visée, on ne sait pas.
Et donc, on peut imaginer changer à l'intérieur d'un embryon, ça veut dire qu'après, on reproduit un gène modifié, ça veut dire qu'après, les humains sont génétiquement modifiés.
Alors, c'est ce contre quoi s'élève Martin Hirsch dans l'interview. Justement, il dit CRISPR, c'est très bien, et c'est même porteur d'un immense espoir pour des gens qui sont atteints de maladies liées à des désordres génétiques qui, jusqu'ici, n'étaient pas curables, mais qu'il faut faire très attention à deux choses, c'est ne pas verser dans la tentative de modification de l'humain, j'entends la couleur des cheveux par exemple, des yeux, des caractéristiques physiques, sans quoi on tomberait dans une forme d'eugénisme. Et il ne faut surtout pas rendre les caractéristiques modifiées, donc héréditaires.
Reproductibles. Voilà. Ouais.
Pour les cheveux, il faut rester aux teintures, je crois. Et puis pour ceux qui perdent leurs cheveux, le complément capillaire, aussi appelé toupet, voire la perruque, la moumoute totale pour des gens qui auraient une Yul Brynner, une Telly Savalas, c'est-à-dire, ou une joueur de footite sur la tête. Il y a vraiment le crâne est vraiment lisse.
Ah, les lentilles de couleur aussi.
Je vous retrouve.
Excellent conseil. Non, je suis très autant sur certains sujets, je vous le cache pas, sur tout ce qui est CRISPR, je reste encore dans l'approximatif. Oui. Autant sur tout ce qui est complément capillaire, appelez-moi.
Une Telly Savalas, il fallait la sortir.
Il y a aussi des trucs rigolos dans la revue. On a par exemple cette mode de la tiny food, de la nourriture minuscule. Il y en a partout sur Internet.
Nous-mêmes, après avoir fait le sujet, on se demande un peu c'est quoi. En tout cas, pourquoi ? Parce que c'est le genre de phénomène qui naît, mais on ne sait pas très bien d'où ça vient. Alors, il y a quelques figures de proue, c'est des youtubeurs, des instagrammeurs, des gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui cuisinent, donc, vous l'avez dit, le plus petit possible. Donc, c'est vraiment de la cuisine de poupée, sauf qu'à l'arrivée, c'est de la vraie nourriture. Bon, il faut se prévoir un casse-dalle dans la foulée, hein, parce que c'est pas très nourrissant, tout ça. Mais en tout cas, il semblerait que ça procure une certaine satisfaction dans l'esprit humain, le fait de voir qu'on cuisine de toutes petites choses, avec des toutes petites, avec ses doigts, voilà.
C'est... Vous me disiez aussi les vidéos de gens qui se passent un peigne dans les cheveux, c'est très agréable à regarder.
Oui, c'est comparé à ça, c'est-à-dire qu'il y a certaines images sur Internet qui sont reconnues comme satisfaisant l'esprit humain, et se passer un peigne dans les cheveux visiblement en fait partie. Donc là, on est dans les parties un petit peu régressives de ce changement d'époque, ou en tout cas sympathiquement régressives.
Moi, aussi... j'aime bien regarder Gérard Depardieu prendre sa douche par un petit système de vidéocaméra que j'ai installé chez lui.
Là, c'est un peu moins tiny. C'est un peu moins tiny.
Ça m'apaise énormément. Merci beaucoup à Antoine Nuzel. Oui,
la
demain. J'écorche les noms de famille afin de réveiller, si vous voulez, notre rapport à notre propre identité. Merci Antoine. Oui, demain, c'est en kiosque en ce moment. Demain, après-demain, avec une belle couverture signée Bilal, qui est un des maîtres du futurisme. Tout ira mieux, croyez-le, avec Antoine Lanuzel. Bientôt, nous pourrons être nous-mêmes majorés, amplifiés, améliorés. Et puis, si ça ne nous plaît pas, on pourra être quelqu'un d'autre. Merci.
Merci.
7h, 9h, plus près de toi. 9h, Edouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
Il y a un déchaînement de pub là aujourd'hui, non? Je suis en surconsommation. Là, j'ai l'impression qu'il ne faut pas, il faut pas obéir à toutes ces injonctions, parce que sinon je vais être rempli de produits alimentaires.
Des voitures.
Des voitures en vlan. Des tickets de caisse. Il y a François Rollin
qui est avec nous. Consoler mon petit lapin chéri.
Oui, chouchou.
Parce que j'ai inventé pour vous un jeu. Un jeu que j'ai appelé la brouette marseillaise.
Ah, ça sent bon.
Comment jouer à la brouette marseillaise? C'est simple. Vous vous procurez une brouette dans laquelle vous placez 7 boîtes de sardines à l'huile. Mmh. Puis, vous vous rendez à la basilique Notre-Dame de la Garde où vous déposez une boîte. De là, vous vous rendez à pied avec votre brouette à la Joliette où vous déposez une autre boîte. Vous poursuivez jusqu'au stade Vélodrome où vous déposez la 3e boîte. Puis direction le Vieux-Port, où vous déposerez une 4e boîte. Attention à bien faire le parcours dans l'ordre que j'indique. La 5e boîte est à déposer à la plage du Prado, la 6e à Andoum et la 7e à l'Estac. Mmh. La partie est gagnée au moment précis où vous déposez la 7e boîte. Alors, je vous entends d'ici, vous allez me dire, ce jeu est passionnant, il donne terriblement envie, mais il faut être à Marseille pour y jouer. Mmh. Eh ben, pas forcément. Vous pouvez parfaitement jouer à la brouette marseillaise à Brest, à Strasbourg, à Dunkerque ou ailleurs. Il vous suffit de fabriquer 7 pancartes portant respectivement les inscriptions Basilique Notre-Dame de la Garde, La Joliette, Stade Vélodrome, Vieux-Port, Place du Prado, Andoum et l'Estac. Vous plantez ces pancartes aux 4 coins, ou plutôt aux 7 coins de la ville de votre choix, et vous jouez comme à Marseille avec la brouette et les sardines.
J'en peux plus, François. Moi, comprenez. J'ai des réunions de rédaction, des réunions de production. On me dit, qu'est-ce que c'est que ce jeu de François Rollin? Aidez-moi à vous aider, François, là. Vous comprenez bien que là.
Hein, soyez joueur, mon vieux joueur.
Oui, mais enfin, vous vous créez de solides inimités, des jalousies, forcément.
C'est une belle balade touristique.
Parce que forcément, vous l'avez déposé sûrement, à mon avis. Oui. Il y a ces pancartes signées François Rollin partout dans tous les magasins de jouets de France. Hein?
Bah oui.
Mais il est malin.
Jouez à Ventrolles. Jouez et faites jouer vos amis, Edouard.
Jouez et faites jouer. Nous terminerons là-dessus, sur cette superbe injonction de François Rollin. Jouer, faire jouer, rire et faire rire. Rêver, faire rêver. Donner, recevoir, échanger. Excellente journée à tous. Merci à ceux qui restent à Paris, à Marie, à Thierry, à Atmen et à leurs invités. Merci ici à Armel et à Eugénie. Et une merveilleuse journée à tous. Je vais être avec mon Yves de Mongeau à faire sauter en effets spéciaux quelques sites locaux. Je vous embrasse très fort. À demain. Tu viens, vous venez à Nyons demain.
Oui.
Moi, je vais tourner aujourd'hui avec Poulvord. J'ai des tartines de texte.
Mignon.
Je suis tombé. J'espère qu'il sera son texte, Poulvord. Salut, à demain.
Mais je le saurai, Edouard.
7h,
9h.
Plus près de toi.
Point final.